samedi 25 juin et il est exactement 4h30, tout pile. Il y a une équipe des soulèvements de la terre qui est en train de peindre un message sur un pont. Là, on est parti pour écrire MGM tue la montagne. MGM tue la montagne parce que MGM est à l'initiative de projets immobiliers très destructeurs. Ce week-end, c'est un week-end de mobilisation des soulèvements de la terre contre ce projet écocide.
Je m'appelle Christian. Qu'est-ce qu'on voit? Moi, ce qui me saute aux yeux, là, ce sont les grues, deux énormes grues. Ce qui était jadis un pâturage sur le bas, maintenant, c'est du béton. Il y a un mois, on est venu, il faisait sauter les rochers à la dynamite avec tout ce qu'il faut pour détruire tout ça. L'objectif, c'est de construire le hameau de l'ours, résidence de luxe avec spa et tout le bazar. N'importe quoi.
C'est quoi ce grand chantier? C'est quoi ces grands tas de terre retournés, les sols défoncés? Pourquoi est-ce qu'il y a ça au col de la Croix-Frie?
Bonjour. Alors, tous ces gros projets qui sont dits comme être structurants pour les territoires.
Valérie Pommier, collectif Sauvons Beauregard.
Sont en fait uniquement pas pour l'immobilier qui tire en fait l'économie de la montagne. Aujourd'hui, on a le parfait exemple ici, on a une résidence 4 étoiles qui est en construction, c'est une résidence de tourisme. Quand on construit ce genre de résidence, c'est 4 étoiles, c'est cher, il faut beaucoup d'eau, il faut garantir du ski au pied aux skieurs, et il faut garantir des piscines, des bains bouillonnants, etc. Au prix en fait, de l'immobilier aujourd'hui, on est obligé de garantir aux acheteurs ce genre d'infrastructure. Il y a 5 ans, le maire voulait déjà ce genre de projet, mais il avait dit que très clairement, il ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc aujourd'hui, on va avoir une retenue en haut qui va garantir l'enneigement, probablement pour la liaison La Cluse à Manigot. On va avoir une nouvelle retenue dans les sapins là-haut pour enneiger ski au pied, la résidence de tourisme 4 étoiles ici, parce qu'on n'est pas très haut. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on n'a plus de canons à neige, on ne peut plus garantir, pratiquement plus garantir l'enneigement aux ailes de saison qui sont Noël et Pâques. C'est vraiment l'immobilier qui tire l'économie de montagne aujourd'hui. Dans le centre du village, par exemple, il y a un foncier qui est à vendre 14 millions d'euros. Quand on vend 14 millions d'euros, on pousse à un prix à la vente à 14 000 euros du mètre carré dans la Clusaz. Donc les habitants ne peuvent plus se loger. C'est ce qui se passe partout, dans toutes les Alpes et dans les Pyrénées. Et même dans le centre de la France, où les montagnes sont encore plus basses.
On ne doit plus construire en montagne, c'est fini.
Bientôt, départ de la troisième balade, étiquetée sur le panneau, site en danger.
Les foliages, je ne connais pas le circuit. Alors. Il est parti, le circuit.
La nature est en danger.
Tu fais partie d'un collectif, Brigitte. Comment s'appelle-t-il?
Le collectif Fiera Ravis.
Là, du coup, on est parti pour aller voir les sites qui sont menacés par la construction d'une retenue collinaire. Toi, tu habites où? Tu es habitante de la région?
Oui, moi j'habite à Thônes. Voilà, mais tout le monde est concerné parce que ici. Il va y avoir un accaparement de l'eau. Donc voilà, on n'a pas le droit de séquestrer l'eau en amont avec les problèmes d'eau qu'il y a actuellement. Et puis en plus, ça va détruire encore une zone naturelle et ça va être une gabegie d'énergie. Donc c'est vraiment en inadéquation avec le contexte climatique et environnemental actuel. Et en fait, la tourbière qui est Natura 2000, classée Natura 2000, est en contrebas de l'autre côté.
Ça va être une catastrophe.
Et donc, il y aura une digue de 12 mètres qui donnera sur la Clusaz et qui, si elle se rompt, met en danger beaucoup de maisons de la Clusaz. C'est juste là devant, juste là,
juste là,
au pied de Borderan, tu vois, voilà, c'est là. Tu vois, ça fait une traînée de sapins de l'autre côté, et ben c'est juste là qu'elle sera là. Ça fait à peu, ça, elle va couvrir à peu près 3 hectares 5 et 8 hectares vont être impactés.
Ça veut dire que ça va être aplani, c'est ça, que tous les arbres vont être détruits?
Ils vont détruire tous les arbres et ils vont ce qu'ils appellent... je ne sais plus quel est le terme qu'ils emploient, mais en fait, ils enlèvent toute la terre arable, ils vont jusqu'à la roche. La terre arable, ils vont la stocker dans un coin, et ils la ramènent après pour faire la digue, donc ils ravagent tout.
Les retenues collinaires, elles sont remplies uniquement d'eau de pluie ou...
Non, là, c'est une source, c'est la source de la Gonnière, c'est une source d'eau potable, hein, quasi potable, il n'y a quasi rien à faire pour la potabiliser. Donc c'est la source de la Gonnière, c'est un captage de source. Ils la remontent sur 3 km, 300 mètres de dénivelé, ils la font croupir dans cette bassine en plastique. Elle devient complètement non potable. Donc, en cas de sécheresse en 2050, c'est ce qu'ils disent, hein, on la redescendra d'où elle vient, mais en la faisant passer par une centrale de potabilisation au passage, qui vaut quand même de l'ordre de largement plus de 2 millions d'euros, et qui est aux frais des gens qui payent leur facture d'eau.
D'accord.
Voilà.
La source, elle est
vers le col des Aravis.
Au bois de la Colombière, là-haut, là-haut, ils se moquent de nos misères, là-haut, là-haut. Si les arbres sont coupés, si la tourbière est asséchée, tous les oiseaux vont périr l'un après l'autre, là-haut, là-haut. Ça pour un hiver au ski, là-haut, là-haut. Faut sauver les Arabies, faut arrêter cette folie. Bientôt, bientôt, ils pompent l'eau de la montagne, là-haut, là-haut. Soi-disant pour nos potables, là-haut, là-haut. Ils nous prennent pour des cons, on sait bien que c'est pour les canons. De neige artificielle, nous devons les empêcher, là-haut, là-haut, de détruire nos bosquets, si beaux, si beaux. Les habitants vont se rebeller, les militants vont les aider, pour ce joyau, joyau. Avec amour et rage, là-haut, là-haut, préservons notre montagne, là-haut, là-haut. C'est pourquoi jusqu'au dernier, nous lutterons pour exister, pour l'eau, pour l'eau, pour l'eau, pour l'eau, pour
Aujourd'hui, avec cette journée et ce qui va se passer demain lors des assemblées de montagne à la Coloquinte, on s'est réunis et on va briser donc le silence qui est parfois imposé par ces élus et ces vendeurs de montagne. Les gendarmes nous ont empêchés, ont essayé de nous empêcher, nous ont gênés, nous ont perturbés pour monter ici. Mais malgré ça, on est nombreux, on est nombreuses, on est là, on a tenu. Et voilà, ça fait très plaisir, on est là pour donc dénoncer... ce système qui nous emmène tout droit dans le mur. Et quelques mots pour vous rappeler ou pour vous préciser. Donc nous allons nous élancer donc de ce hameau de l'Ours et nous allons nous rendre jusqu'à la retenue collinaire de l'Étal, donc une retenue qui a déjà été construite, ce contre quoi nous luttons.
Tu m'as dit que ça te semblait très intéressant, le travail effectué par XR, donc Extinction Rebellion.
Oui.
Pourquoi ?
parce que, tu vois, on a eu 1800 avis sur une enquête publique. C'est de l'inédit. Ils ont dû mettre 3 commissaires enquêteurs. Les commissaires enquêteurs, quand tu lis leurs conclusions, tu as l'impression qu'ils vont mettre avis défavorable à la fin. On a l'impression qu'on s'agite les pieds dans l'air. Et en fait, sans des gens qui ont le courage de mettre eux-mêmes en danger et personne d'autre pour protéger une zone à laquelle ils sont profondément attachés. Et en fait, ces gens-là ont un courage fou. Et sans eux, là, tout serait déjà saccagé.
Pour toi, la solution aujourd'hui, c'est d'allier différents modes d'action, que ce soit les études de dossier et la désobéissance civile.
Oui, je pense que sans la complémentarité, la synergie de ces deux luttes, rien ne peut se faire maintenant. Parce qu'en fait, sans l'étude des dossiers, eh bien, la désobéissance civile n'a pas de sens, puisqu'il n'y a pas de base. Et sans la désobéissance civile, l'étude des dossiers, on s'en moque.
Est-ce que tu as évolué dans ta conception de la manière de mener une lutte écologiste au fur et à mesure de ton engagement ?
Ah oui, oui, parce que moi, naïvement, je pensais qu'étudier un dossier et montrer qu'il n'était pas bon allait suffire. Et c'est pas du tout ça. Donc, moi, je suis très admirative des gens d'Extinction Rebellion qui ont le courage de se mettre en danger physiquement pour aller au bout de leurs convictions.
Des rondelles, on peut faire un peu les deux.
Bon, moi j'aime mieux si c'est fin, si tu peux.
Des petits cubes fins.
Fin, oui.
Wow. Ok, c'est noté.
Merci.
Est-ce que tu peux me dire ce que tu es en train de faire?
Je suis en train de couper du concombre et je pense qu'on a 50 concombres coupés en petits cubes fins. Donc je pense que c'est pour la journée.
Il est 10h du matin, on est à la ferme de Coloquinte, à Marcelaz, et l'AG du Grondement des Cimes va commencer, donc l'Assemblée Générale, qui doit voir se rassembler les différents collectifs de défense de la montagne en présence pour partager des expériences, partager des compétences, des problématiques et s'enrichir les unes les autres. Entre 50 et 100 personnes sont toujours présentes, elles ont dormi dans des tentes sur la ferme qui les a accueillies pour la nuit.
Je m'appelle Mado et je travaille au refuge solidaire à Briançon. C'est un accueil d'urgence où les personnes peuvent passer quelques jours juste après d'avoir passé la frontière franco-italienne. Donc c'est les personnes qui sont on the move, qui bougent et qui arrivent en France soit pour demander l'asile, soit pour repartir dans d'autres pays de l'Union européenne. Et ça s'est structuré petit à petit pour aujourd'hui devenir une sorte de tiers-lieu assez grand où il y a plusieurs associations qui sont hébergées et où on peut accueillir 60 personnes en même temps. Majoritairement, elles viennent d'Afghanistan, d'Iran et du Maroc.
Aujourd'hui, vous êtes plusieurs à être venus de Briançon pour participer à ce week-end du Grondement des Cimes. Pourquoi est-ce que vous êtes là ?
On habite dans des stations de ski internationales. On connaît le problème de la neige artificielle, de l'artificialisation des sols, du prix du foncier qui augmente. Et en fait, on se déplace ici aujourd'hui pour se rencontrer, pour apprendre les tenants et les aboutissants de ce projet. On a pu dire aussi qu'il y a un nouveau squat qui s'est ouvert entre Oulx et Briançon, à côté de Clavière, à Cesana. On va se rencontrer à nouveau les prochaines fois sur les prochains soulèvements de la terre. Ou alors il y a des personnes qui viendront faire du bénévolat à Briançon ou des maraudes. Et donc du coup, on sait que c'est intéressant d'aller se rendre compte des réalités du terrain près de chez soi. Il y a en tout cas un clash des civilisations, un choc qui s'opère à cet endroit-là, précisément là sur les cols, qui sont des cols amis et fantasmés pour un skieur ou une skieuse, et qui sont un ennemi redoutable en fait pour une personne qui essaye de tracer sa route.
récemment et moins récemment, on a entendu parler de la fermeture de certains lieux par la mairie de Briançon. Est-ce qu'on peut dire, de certains lieux d'accueil, pardon, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la mairie de Briançon, elle favorise davantage le tourisme et cette activité économique liée au tourisme que l'accueil de personnes qui sont en danger ?
Ah, mais elle ne voudrait que le tourisme. La mairie, elle est contre nous et elle nous embête. Et y a toute une politique de criminalisation, on peut dire, qui est mise en place, parce que c'est de l'harcèlement policier, c'est des amendes incongrues en permanence. Il y a quand même une force d'opposition, en fait, hein, contre l'accueil des personnes exilées à Briançon. L'idée, c'est de ne pas déranger le tourisme. Tant que le touriste peut boire son chocolat chaud, il peut y avoir du passage dans la montagne. Tant que ça ne fait pas de bruit, tant que tu ne médiatises pas autour des personnes qui sont décédées, la vie suit son cours, j'ai envie de dire.
Bonjour, moi c'est Renette. Alors moi je fais partie du collectif de l'Écrevisse qui est situé à Annecy. C'est un lieu associatif, autogéré, qui milite pour une culture de résistance face à la culture dominante et pour promouvoir un autre modèle de société face au système capitaliste.
Très concrètement, vous y faites quoi dans ce lieu ? Il s'y passe quoi ?
Il s'y passe tout un tas de choses, c'est ultra varié. Il y a des ateliers bois, métal pour tout ce qui est transmission de savoir-faire. Il y a des conférences, des projections, il y a des concerts. Il y a des ateliers, des cercles de parole. Voilà, tout ça dans une démarche de transmission, d'éveil des consciences, d'émancipation.
Vous faites le lien avec beaucoup de collectifs dans ce lieu, c'est ça ?
Oui, on accueille une quarantaine de collectifs. On fédère des collectifs qui sont sur toutes ces luttes anticapitalistes, antifascistes, souveraineté alimentaire, féministes, etc. Et notamment des collectifs qui accueillent des personnes exilées.
Hier, tu as pris la parole au cours de la manifestation pour déplorer le fait que des personnes qui avaient préparé un goûter n'ont pas pu venir à la manifestation. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ?
Donc elles n'ont pas pu venir. On a quand même tenté de venir avec elles parce qu'elles voulaient venir en montagne et puis profiter elles aussi de ce qu'elles avaient pu fournir comme travail. Et du coup, face au dispositif policier est très très important. Donc elles ont eu droit aussi à ce fameux contrôle d'identité. Et bien sûr, dans ce monde avec des frontières, quand on n'a pas de documents, on se retrouve complètement discriminé. Donc elles ont eu de nouveau une expérience traumatisante, comme elles en ont vécu de nombreuses, avec une fouille au corps que nous, personnes blanches, n'avons pas eu à subir. Et du coup, face à ce lot de traumatismes et à la grande probabilité de nouveau être contrôlé tout au long de la journée à force du dispositif policier, elles ont préféré retourner, rentrer à Annecy.
C'était qui ces personnes ?
C'était deux jeunes mineurs exilés qui viennent de Guinée-Conakry. Et du coup, c'est déplorable de voir qu'on est même dans les montagnes les plus reculées, dans un état totalement policier et colonial, et que cette colonisation continue ici, même dans nos montagnes. Donc ça nous rappelle bien sûr les passages des montagnes, comme à Briançon, comme nous, on peut vivre dans les Alpes. Et du coup, cette discrimination qui existe encore et toujours, et montrer que cette écologie, ça doit être une écologie populaire et décoloniale, et qu'on ne peut pas protéger le vivant sans penser à toutes et tous les vivants qui font partie de cette terre, et notamment les personnes exilées, les personnes discriminées.
Avec quel sentiment tu finis ce week-end et tu vas en repartir ?
Je repars avec l'idée que il faut ces moments de fédération, il faut ces moments de lutte commune et pour se rendre compte de ce qui se passe chez les uns, chez les autres. Je repars avec un peu d'espoir quand même, mais aussi l'envie que ça avance plus vite.